Vous écoutez RTL.
Allez, notre deuxième thème, les curieux, jusqu'à 15h sur RTL. Athènes contre Sparte, c'est la guerre du Péloponnèse. Bonjour Jean-Yves Boriot.
Bonjour.
Bienvenue, c'est la sortie du dernier opus du jeu vidéo Assassin's Creed qui nous a donné envie d'en savoir plus sur cette guerre du Péloponnèse parce que c'est le décor historique du jeu. Nous, on va justement le poser, ce décor, géographiquement et historiquement. Cette guerre, elle se passe où et quand ?
Alors, c'est une guerre qui se déroule entre avril 431 et 404, avant Jésus-Christ, cela va de soi. Oui. Et c'est une guerre totale, c'est-à-dire qu'elle met en jeu toutes les cités grecques, depuis la Sicile, car la Sicile est une île grecque, jusqu'à l'Anatolie. Donc c'est une guerre globale qui oppose deux camps, mais ces deux camps, avec tout un jeu d'alliances, un jeu de colonies, etc., ces deux camps couvrent le territoire grec dans sa totalité.
Donc quand je dis Athènes contre Sparte, en fait, ce sont deux ligues ou deux coalitions qui s'opposent, c'est ça ?
Effectivement. Alors les deux villes phares, bien entendu, c'est Sparte d'un côté, Athènes de l'autre. Ce sont les deux villes qui vont vraiment inspirer, susciter cette guerre, mais évidemment par le jeu des colonies, des ligues, effectivement, ligue du Péloponnèse d'un côté, ligue de Délos de l'autre, eh bien, ce sont deux logiques qui vont s'affronter, deux blocs. C'est une guerre bloc contre bloc.
Alors justement, deux grandes cités rivales, deux ambitions qui s'affrontent. C'est une guerre légendaire qu'on vous raconte dans votre curiosité sur RTL.
Léonidas et les valeureux 300 sont morts.
RTL.
Jusqu'à 15h.
Les hommes et les femmes libres de Grèce n'ont pas à venger la mort héroïque d'un Spartiate.
La curiosité est un vilain défaut.
Ils ne sont pas guerriers dans l'âme. Pourtant, il a donné sa vie pour eux.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
La curiosité, c'est du lundi au vendredi de 14h à 15h sur RTL. Ici, on aime la science, l'aventure, la nature, les sagas musicales, les grands destins, comme celui de Jean-Paul Gontier, dont on vient de parler à l'instant. Et on aime aussi l'histoire, avec un grand H. Justement, c'est ce que l'on découvre maintenant avec notre invité, l'historien Jean-Yves Boriot. Et donc, cette guerre du Péloponnèse, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes contre Sparte. On va décrire les belligérants, tiens, pour commencer. Et d'abord la ville de Sparte. On va faire cette séquence sur Sparte, la prochaine sur Athènes.
Un peu comme dans le spécial, l'Historia spécial,
c'est
Thomas.
C'est vrai, on peut le retourner, c'est ça ?
On peut le retourner, c'est-à-dire que vous avez Sparte contre Athènes, puis Athènes contre Sparte. C'est très très bien foutu.
Il est effectivement très bien fait, il est en partenariat avec RTL. Alors Jean-Yves Boriot, Sparte, c'est quoi ? C'est comme une gigantesque caserne. Cette ville.
Voilà, c'est exactement ça. Dans l'Antiquité, d'ailleurs, on parlait plutôt d'un camp. Les commentateurs, on va dire, les chroniqueurs plutôt, disaient qu'il s'agissait là d'un vaste camp. Tout est conçu à Sparte pour la guerre. Absolument tout. C'est-à-dire que la production agricole, elle est déléguée à des gens qu'on appelle les périèques, en gros ceux qui habitent autour. Et il y a évidemment les fameux ilotes, qui sont la main-d'œuvre servile, et l'élite, les homoïoïdes, ceux qui se disent semblables à quoi d'ailleurs, on ne sait pas trop. Enfin, semblables entre eux, cette élite-là, elle est entièrement programmée pour la guerre. C'est-à-dire que l'éducation des enfants est une éducation pré-guerrière, si j'ose dire, et tout cela se poursuit jusque tard dans l'âge adulte.
Et les femmes, les filles aussi sont des guerrières ?
Alors, elles ne sont pas réellement guerrières, non, cela ne se... Enfin, pas au premier sens du terme. C'est-à-dire que ces femmes, elles doivent devenir des mères de guerriers. Alors, elles ont un entraînement qui ressemble un peu à celui des hommes, c'est-à-dire qu'elles ont le tout jeune âge, elles ont droit à un entraînement physique, elles courent, elle lance également le disque, elle lance le javelot, elle lutte également entre elles. Et le scandale, évidemment, des scandales, c'est qu'elle court le long de l'Eurotas, sur la piste qui est là, tracée le long de la rivière, elle court nue.
Ah bon ?
Eh oui.
Et pourquoi c'est le scandale ?
C'est un scandale absolu. Seuls les hommes le font. Les femmes, non, ça heurte toute la pudeur grecque. Ça, c'est un scandale aux yeux des autres Grecs.
Donc, on est dans une cité tout entière tournée vers la guerre. Oui. Mais ces jeunes femmes, on va leur consacrer encore un petit instant, elles apprennent aussi à chanter, à danser. Pourquoi ? Avec quel usage ?
Alors, c'est un usage religieux. Hein. Elles n'apprennent pas à chanter, à danser pour faire la fête, j'ai failli. Mais en fait, si, un peu. Les fêtes sont des fêtes religieuses, c'est-à-dire que lors des grandes fêtes de la jeunesse, elles chantent et elles dansent. Il y a des chœurs mixtes et l'année des Spartiates est scandée justement par ces grandes fêtes. Hein. Les plus connues de ces fêtes sont celles qu'on appelle les Iacuntia, hein, c'est-à-dire les fêtes en l'honneur d'un héros aimé d'Apollon et que Apollon a tué malencontreusement en lui lançant un disque à la tête. Hein, et là, il a lui-même installé, dit la légende, un endroit qu'on appelle la Mycléone, il a installé un culte là, où se rendent tous les ans les jeunes filles, en chantant et en dansant.
Et alors, un petit point mode, est-ce que les Spartiates portent des Spartiates?
Alors, c'est un...
Oui, c'est vrai, c'est essentiel.
Je vais vous faire une réponse un peu décevante. Les Spartiates se déplacent pieds nus.
Ah.
Alors, les Spartiates, en fait, ce sont des chaussures, disons, grecques, quoi. Globalement grecques, mais qui ont été quand même revisitées considérablement pour l'époque moderne.
Jean Borio, il faut aussi raconter l'étrange cérémonial de la nuit de noces. À Sparte. Comment ça se passe?
C'est très curieux. Alors, pour comprendre ce qui se passe là, lors de cette fameuse nuit de noces, il faut bien se dire que nous sommes, comme on le disait tout à l'heure, dans un camp, c'est-à-dire que les hommes prennent leur repas en commun, ils dorment dans des dortoirs, et quand ils ont 30 ans, ils doivent se marier. Alors évidemment, on saurait penser à des histoires d'amour, ça n'existe pas, nous sommes dans un camp militaire, hein, donc on choisit de famille à famille, on choisit donc les époux. Non. Et pendant cette nuit de noces, la jeune femme vient dormir dans une pièce annexe au dortoir, elle dort sur une paillasse, et là, elle est dans le noir. Et à un moment de la nuit, son époux vient la retrouver, elle ne le voit pas, donc ils sont censés s'unir là, et lui après, comme si de rien n'était, repart dans le dortoir, terminer la nuit au milieu de ses camarades.
Ça veut dire qu'ils vont pas vivre ensemble en fait.
C'était le bon temps, Thomas.
je suis pas sûr.
si quand même. Lorsqu'il y aura un enfant. Oui. Lorsqu'il y aura un enfant, il y aura véritablement embryon de famille. Même si le jeune homme, hein, 30 ans, il doit continuer à se battre, ça va de soi.
Dernier mot, le terme spartiate qui désigne aujourd'hui un mode de vie, on va dire frugal, un peu simple, c'était la réalité à Sparte.
Oui. Même pire que cela. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, par exemple l'enfant de 7 ans, on lui donnait un manteau pour l'année. Il allait pieds nus. Et il y avait la terrible affaire du brouet noir. C'était la nourriture que prenaient donc en commun les jeunes Spartiates. Alors, pour ces repas pris en commun, chacun devait apporter, ma foi, son écho. Hein. Alors, on apportait de l'orge, etc. Mais c'était très administratif. Et on savait exactement ce qu'on devait apporter. Et tous les jours, on mangeait du brouet noir. Alors, c'était de la viande de porc cuite avec du vinaigre, du sel et du sang. C'était absolument redoutable et seuls les Spartiates étaient capables de manger ça.
Oh là là, oui, ça donne envie. Hein. Alors, bon,
j'ai déjà déjeuné.
Sparte et Athènes qui vont se faire la guerre. On découvre la vie quotidienne dans le berceau de la démocratie à Athènes dans un instant sur la première radio de France. Et on va vous raconter un rite étonnant, celui des voleurs de fromage.
Bon ben voilà, ça y est, c'est Athènes, l'acropole.
RTL.
Entre-temps, Athènes était en guerre avec Sparte depuis moins 461 environ.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est la première guerre du Péloponnèse.
Paf, coup de boule, coup de boule, coup de boule. Et paf de nouveau, paf, coup de boule.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
De retour dans votre curiosité, toujours avec l'historien Jean-Yves Bourriaud qui nous raconte la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes. C'était il y a 2500 ans. Alors avant de découvrir Athènes, et une anecdote concernant le caractère guerrier de Sparte, le rite des voleurs de fromage, de quoi s'agit-il?
Il s'agit d'un rituel absolument terrible, hein. Une sorte de rite de passage, mais bon, sous ce terme on met beaucoup de choses, hein, bien entendu, mais c'était une fête avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire que tout se déroulait sur une aire, hein, sur une sorte de terrain vague circulaire avec un autel au milieu, sur lequel étaient entassés des fromages. Et les adolescents devaient aller récupérer un maximum de fromages, là, au milieu de cette aire, mais ils étaient systématiquement flagellés. Il y avait là des prêtres qui les flagellaient. Hein. Et alors, il faut imaginer une scène terrible. Hein. Le sang, évidemment, jaillissait. Et tout ça, c'était en l'honneur d'une terrible déesse, qui est la déesse Artémis, hein, qui est la déesse des bêtes sauvages, qui est la déesse de la nature sauvage et tout. Et cela, il y avait une fête par an de ce type-là. Et quand les Romains, ensuite, se seront emparés de toute la Grèce, eh bien, cette fête perdurera, mais ça deviendra, on va faire même un théâtre, hein, et cette scène perdurera, mais ça deviendra quelque chose qui ressemblera un peu au combat de gladiateurs, hein, ça deviendra sordide.
Donc ça, c'est un rite.
Oui, c'est un rite.
Sparte, on l'a bien compris. Comment Athènes, l'intellectuel, le berceau de la démocratie, juge ce genre de rituel? Est-ce qu'il y a du mépris pour commencer à rentrer dans la rivalité entre les deux villes?
Alors, il y a rivalité, évidemment. Et il y a surtout incompréhension. Parce que les Athéniens sont des démocrates. Déjà, ils ne comprennent pas le système politique spartiate. Et il n'y a pas véritablement mépris. D'ailleurs, on trouve chez de grands auteurs athéniens des louanges en ce qui concerne l'agogé, c'est-à-dire l'éducation spartiate. Mmh. Donc, il n'y a pas véritablement de mépris, mais il y a incompréhension pour les mœurs. Hein, mais il y a incompréhension du système politique.
Oui, mais justement, alors à Athènes, un homme seul ne peut pas s'emparer du pouvoir.
C'est impossible.
Comment fonctionne la cité athénienne, en fait?
Alors, c'est justement, il y a là un fonctionnement complexe. Et justement, la complexité est voulue. C'est pour empêcher, comme vous le disiez, qu'un homme seul puisse prendre le pouvoir. Alors, théoriquement, la démocratie est directe. C'est-à-dire qu'une assemblée, l'Ecclésia, réunit tous les hommes libres, qui ont tous, évidemment, le droit de vote, et qui peuvent tous proposer des lois. Et évidemment, ces lois sont discutées après être passées par le filtre d'une autre assemblée, d'une assemblée de gens plus âgés, qu'on appelle la boulée, hein, une sorte de sénat, hein, si l'on veut, qui met en forme les projets de loi en question, qui reviennent ensuite devant l'Ecclésia, et qui sont voter ou non à ce moment-là. Et deuxième garde-fou aussi pour la démocratie, c'est ce qu'on appelle l'élié, c'est-à-dire le grand tribunal, qui est l'émanation de l'Ecclésia. Alors théoriquement, quand vous passez en justice, quand vous êtes attaqué, hein, non pas par l'État, ça n'existe pas, mais par quelqu'un d'autre, dans la cité, eh bien, vous passez devant l'élié. Et vous passez devant l'Élie, mais vous ne passez pas devant l'Élie dans sa totalité, sinon on n'en sortirait pas. Les Athéniens, étant vraiment des gens très très procéduriers, ils passent leur temps à faire des procès les uns les autres. Il y a des sous-commissions, des commissions et des sous-commissions. Et là, vous passez devant telle ou telle sous-commission, mais on fait très très attention. Il faut que toutes les tribus, c'est-à-dire les entités administratives de base, hein, de la cité, soient représentées.
À Athènes, Jean-Yves Bourriaud, c'est une cité, un berceau de la démocratie, c'est aussi un empire.
Oui. Alors, c'est un empire. Et c'est une cité impérialiste, au sens où nous l'entendons, nous. C'est-à-dire qu'elle est au centre de ce qu'on appelle la Ligue de Délos, hein, c'est-à-dire une ligue qui, autour d'Athènes, regroupe énormément de petites îles de la mer Égée. Théoriquement, ces petites îles sont sous la protection de la flotte athénienne. Et pour cela, évidemment, elles versent un tribut. Alors théoriquement, ce tribut, il est conservé à Délos, sous évidemment le patronage du dieu Apollon, qui règne sur Délos. Mais très rapidement, les Athéniens ont récupéré le tribut en question, l'ont rapatrié à Athènes, et il a servi notamment à la construction de l'acropole.
Alors, qui de Sparte la guerrière ou d'Athènes l'intellectuelle l'emportera? Notre plongée dans la grande histoire continue sur RTL.
RTL. Avant de parler perse, sache qu'à Sparte, tout le monde, même le messager d'un roi, est tenu pour responsable des paroles qu'il prononce.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Vois-tu, le bruit court que les Athéniens ont déjà rejeté ta demande.
La curiosité est un vilain défaut.
Nous sommes des Spartiates!
Extrait de 300, le film qui raconte la guerre entre les Spartiates et les Perses. Cette époque, elle continue de fasciner aujourd'hui, puisqu'il y a le jeu Assassin's Creed qui consacre son dernier opus à la guerre du Péloponnèse qui a opposé Sparte et Athènes au 5e siècle avant notre ère. Et également le magazine Historia en partenariat avec RTL. Jean-Yves Bourriaud, je rappelle que vous êtes historien, que vous avez participé à ce hors-série.
Oui, dans mon âge, ça serait possible.
En tout cas, vous la connaissez. connaissez ô combien dans le détail. Et on va maintenant raconter le conflit lui-même. On a quelques minutes pour le faire. Quand et pourquoi elle se déclenche, cette guerre? C'est une question d'impérialisme, ces deux empires qui se battent.
Quoi. Deux empires qui vont s'affronter. On connaît à la fois les causes et les raisons de cette guerre. Les causes immédiates, c'est simplement une histoire de colonies. La colonie une colonie Potidée change de camp. La ville de Corcyre, notre actuel Corfou, change de camp également. De là, deux raisons, deux causes directes de l'affrontement. Mais évidemment, les raisons sont beaucoup plus vastes. Hein. Il s'agit vraiment du heurt de deux logiques. C'est pourquoi le numéro est ainsi conçu. Hein. Ce sont deux empires qui n'ont rien en commun. L'un est terrestre, celui de Sparte, et l'autre est essentiellement maritime, c'est celui d'Athènes. Seulement, le problème, c'est que Athènes ne se contente plus maintenant de son empire maritime. Athènes commence à mordre sur le territoire que les Spartiates considèrent comme leur.
Donc Sparte déclenche la guerre, c'est presque une guerre préventive, est-ce qu'on peut dire ça?
Ah oui, on peut aller jusque-là, c'est une guerre inévitable. C'est une guerre inévitable parce qu'il y a une logique de bloc à bloc, on l'a dit, mais c'est une guerre qui finalement va se mener dans le Péloponnèse, effectivement, mais également en Attique. C'est pourquoi le mot de l'expression de guerre du Péloponnèse, évidemment, c'est une expression qui ne recouvre pas toute la réalité. Alors, elle va se passer de manière curieuse. Les Spartiates vont venir encercler Athènes et ils ne prendront jamais Athènes, c'est impossible étant donné les fortifications de la ville. Et seulement, lors de chaque campagne, ils détruisent une partie des oliviers. Et comme chacun sait, les oliviers, pour que ça donne de nouveau des olives, il faut des années et des années. Détruisent les vignes, les oliviers, etc. Et en même temps, la flotte athénienne, elle va détruire sur le pourtour du Péloponnèse, les petites villes qui sont des alliés de Sparte. Et ainsi, les choses perdurent jusqu'à de grands événements. En gros, le premier tournant de la guerre, c'est l'affaire de Sphacteri. Hein. Sphacteri, c'est une île donc, qui se trouve sur la côte sud-ouest du Péloponnèse. Oui. Et dans cet îlot, eh bien, c'est une défaite des Spartiates, parce que les Spartiates ont des fantassins trop lourdement équipés qui vont être battus et faits prisonniers, ce qui est terrible pour des Spartiates par les Athéniens. Sphacteri 425, premier tournant. Et là, les choses sont mal parties pour Sparte.
Pourtant, Sparte va gagner cette guerre.
Va gagner cette guerre parce que les Athéniens vont commettre une énorme erreur. Ils vont envoyer dans des conditions épouvantables avec un chef d'expédition qui est poursuivi en justice à Athènes. Hein, Alcibiade. Ils vont mener une expédition en Sicile. Ils sont beaucoup trop loin de leur base. Ils ne connaissent pas bien les rapports de force en Sicile, et en Sicile ils vont être battus, ils vont être écrasés, et les fantassins et les marins athéniens vont se retrouver dans les fameuses latomies, les carrières que nous connaissons bien, et ils vont mourir de faim dans ces carrières en question.
Et que va changer cette guerre du Péloponnèse dans la politique à Athènes?
Alors, beaucoup de choses. Quand Athènes est définitivement écrasée, eh bien, on impose à Athènes un système oligarchique, c'est-à-dire une sorte d'élite. Il n'y a plus de démocratie. Et à deux reprises, on aura un régime tyrannique de ce type-là. Là, grâce à Thrasybule, la démocratie reviendra, mais ça va marquer définitivement les esprits. D'autant que là, on a obligé, en 404, les Athéniens à détruire les fameux longs murs, ces longues murailles qui réunissaient Athènes et le Pirée et qui rendaient Athènes pratiquement invincible. Ça va changer beaucoup de choses, et cette guerre du Péloponnèse, ça va changer beaucoup de choses dans les mentalités, parce qu'à partir de maintenant, les guerres vont être totales.
Merci beaucoup, c'était passionnant, Jean-Yves Borio. On conseille la lecture de ce hors-série du magazine Historia. C'est en partenariat avec RTL. Merci, à bientôt.
Merci à vous.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.